Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'économiste Daniel Cohen, le philosophe François-Xavier Bellamy, la journaliste spécialiste des affaires étrangères Christine Ockrent et l'essayiste Philippe Manière. Au sommaire de ce dimanche 11 novembre, 1918-2018, savons-nous encore penser la guerre? Et après les élections de mi-mandat aux États-Unis, comment vont cohabiter les deux Amériques? Cet après-midi, après la flamme ravivée du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, après les hymnes et les uniformes, tous les chefs d'État et de gouvernement invités à Paris par le président Macron ont rendez-vous non plus avec le souvenir de la guerre, mais avec l'avenir de la paix. La France convie, après le déjeuner, dirigeants, organisations internationales, intellectuels, à un forum pour la paix, à la grande halle de la Villette à Paris, non plus pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, mais pour essayer de tenir la promesse du « plus jamais ça ». Sauf que depuis le début de la semaine, tout se passait comme si parler de guerre et de paix était devenu inaudible dans la France de 2018. Ce que le dessinateur Plantu avait fort bien résumé en Une du Monde jeudi, avec cette vignette qui montrait le président Macron tenant à la main une gerbe de fleurs, mine déconfite et larmes à l'œil. « Je commémore une époque », essayait-il de dire, une époque où l'essence était moins taxée, l'interrompait un poilu français, visiblement peu sensible à l'émotion présidentielle, juste avant la polémique autour du maréchal Pétain, dont Emmanuel Macron avait rappelé la grandeur militaire de 14-18 avant l'infamie de 39-45. Réapprendre à penser la guerre, dans un pays et une époque qui aimait se dire que la guerre se résumait désormais au terrorisme et aux cyberattaques, que les vraies guerres, c'était pour les autres, au Moyen-Orient, en Afrique. Pourtant, pas si loin de chez nous, dans d'autres pays, on trouvait des dirigeants et des opinions publiques qui vivaient très bien avec le caractère tragique et guerrier de l'histoire. Dans la Russie du président Poutine, par exemple. L'Europe qui pensait avoir banni définitivement la possibilité des bruits de bottes, savait-elle encore penser la guerre? Cette guerre que nous n'entendions plus.
Ce que j'entends dans les sons de la guerre de 14-18, c'est avant tout, évidemment, les sons de la guerre eux-mêmes, à savoir les sons du front, qui ont été décrits par beaucoup d'écrivains et par tous les témoignages qu'on a comme un véritable enfer. L'arrière était aussi un enfer sonore, parce que les bruits des canons, les bruits de la guerre, de la bataille de Verdun, de la bataille de la Somme, s'entendaient à plus de 100-150 kilomètres. Donc c'était permanent. Et il y a ensuite tous les sons qui ont été plus musicaux, c'est-à-dire à la fois les musiques de fanfare, les chansons. Donc c'est très touchant de se replonger dans ce contexte.
Extrait de « Entendre la guerre », une exposition organisée en 2014 par l'historial de la Grande Guerre à Péronne avec ce designer sonore Luc Martinez que vous venez d'entendre. Il existe des images mais aucun son des tranchées et pour cette exposition il avait donc fallu recréer notamment le vacarme du champ de bataille. François-Xavier Bellamy, on ne peut plus écouter la guerre de 1918. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on ne sait plus penser la guerre en 2018?
D'abord, si on devait reprendre la métaphore sur laquelle vous nous lancez, on peut dire que la semaine écoulée a été effectivement quelque chose comme une triste cacophonie. Ici même, il y a quelques jours, nous souhaitions autour de cette table que cette semaine se passe le mieux possible parce que ce moment de commémoration était important. Et pour ma part, je trouvais que le choix qu'avait fait Emmanuel Macron d'aller sur les lieux, nonobstant le sophisme ou l'expression un peu compliquée d'itinérance mémorielle, l'idée même de ce déplacement
était... Itinérance mémorielle et politique, c'était l'expression de l'Élysée.
L'idée était belle et juste et elle était surtout à la hauteur de l'importance absolue de cet événement dans la mémoire des Européens, qui fut la Première Guerre mondiale. Il est très regrettable que nous n'ayons pas su peut-être collectivement être à la hauteur de ce moment qui aurait dû être un moment d'unité nationale. Nous avons besoin, dans les clivages démocratiques tout à fait légitimes qui marquent notre pays, dans des débats qui sont difficiles, et la question de la transition écologique ou la question de la fiscalité, la question du prix du carburant sont des questions d'une importance majeure. Mais nous avons plus besoin que jamais, sans doute, de pouvoir nous réunir dans des moments particuliers, non pas pour faire comme si les clivages n'existaient pas, mais pour montrer qu'une démocratie, c'est à travers le pluralisme des opinions qui s'expriment, aussi le travail d'un collectif qui sait s'engager à la fois pour commémorer son passé et pour construire son avenir. Et ça n'a pas été possible. Alors, je vois deux responsabilités à cela. Il y a, n'ayons pas peur de le dire, une responsabilité des Français en général, parce que peut-être nous n'avons pas su suspendre des débats décisifs pour les remettre à plus tard. Il y a aussi une responsabilité du président, à n'en pas douter, parce que je crois que personne n'a vraiment compris cette espèce d'alternance curieuse entre commémoration et proposition politique. Quand on entend Benjamin Griveaux qui dit récemment, au fond, il faut pas ternir les commémorations parce qu'on va mettre 1 milliard d'euros dans les usines, bon, on se dit qu'il y a quelque chose comme un décalage énorme entre ce moment qui aurait dû être à la hauteur de la mémoire et le moment plus nécessaire, qui est, sur lequel est attendu aussi, bien sûr, le président et le gouvernement, celui de la proposition concrète pour réformer la France ou pour améliorer le niveau de vie des Français. Et je crois que cette confusion-là a été préjudiciable à ce rendez-vous qui aurait dû être l'occasion, non pas d'un consensus de façade, mais d'une véritable unité nationale autour de cette mémoire nécessaire.
Christine Ockrent, en effet, cette fronde montante sur les carburants, la polémique autour du maréchal Pétain, pourquoi est-ce que cette itinérance mémorielle, et c'est vrai très politique, d'Emmanuel Macron a été inaudible ?
Parce que le « en même temps » ne saurait s'appliquer à des domaines aussi écartés l'un de l'autre. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François-Xavier, c'est immensément regrettable. Je crois qu'il faut aussi souligner le rôle des médias et des médias d'information continue pour qui désormais le moindre feu de paille, je ne dis pas que la controverse sur l'évocation du maréchal Pétain était un feu de paille, mais le moindre feu de paille fait un écran de fumée qui, me semble-t-il, obscurcit véritablement les différents enjeux. Mais il est évident que ce mélange des genres, dans la crispation actuelle de l'opinion publique, était un pari extrêmement risqué, et ça a été aggravé, ou plutôt ce pari, me semble-t-il, hélas, a été largement perdu, parce que Emmanuel Macron ne résiste pas à la pensée complexe. Et en fait, il y a des moments, et singulièrement quand l'inquiétude des Français se fait aussi vocale, et surtout dans cette partie-là de la France, qui est une France véritablement appauvrie et angoissée, la pensée complexe, elle ravit les intellectuels.
Qu'est-ce que vous appelez la pensée complexe ? Dire de Pétain qu'il a à la fois été un grand soldat, puis un traître à la nation pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Le général de Gaulle l'avait admirablement écrit depuis fort longtemps. Et après,
Jacques Chirac et François Mitterrand.
Et d'autres après le général de Gaulle. Donc c'est pas tellement ça. Mais c'est le fait toujours de vouloir dire des choses compliquées. Or, certes, l'époque est complexe, mais il y a des moments où la réponse où doit être plus simple. Et il me semble que ça a été l'un des écueils sur lesquels, hélas, s'est brisée cette entreprise, au-delà de l'appellation qui, franchement, enfin, on aurait quand même pu trouver, tous ces brillants cerveaux à l'Élysée auraient quand même pu trouver une manière de décrire cette démarche de façon un peu plus simple. Et je crains que cet après-midi, donc ce forum de la paix, pourvu que là aussi, on sait bien l'intention, elle est tout à fait louable. Néanmoins, penser la paix, c'est pas tellement plus simple que penser la guerre.
Toutes ces polémiques de la semaine, Philippe Manière, qui au fond ont empêché le président de la République, mais aussi d'une certaine manière les Français, d'être dans ce moment de souvenir et d'unité, qu'est-ce que ça dit de nous aussi et de notre rapport à la guerre ou de notre déni de la possibilité du retour de la guerre ?
Je crois qu'il ne faut pas non plus généraliser ce que pensent les Français sur la base de ce qu'on en voit à la télévision ou sur la base des polémiques. Moi, je n'exclus pas qu'une grande partie de nos compatriotes ait la capacité et ait cette semaine fait cette démarche un peu intellectuelle, morale, personnelle, qui consistait à tout de même avoir une pensée pour ces innombrables Français qui sont morts pour la France.
Et
pas que les Français, mais puisqu'on est en France et qu'on célèbre les poilus, parlons des Français. Donc, Christine a raison en évoquant les chaînes d'information en continu, qui à mon avis sont une dévastation pour la capacité à penser et pour la capacité également à faire de la politique. Donc il y a cet élément. Je crois, j'y reviens un instant, ça a déjà été évoqué, mais que le président et son entourage ne sont pas sans responsabilité non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme de cuistrerie conceptuelle intellectuelle insensée, appeler ça une itinérance mémorielle. Ce que ça fasse l'objet, cette expression de note entre intellectuels normaliens et Hénard, qu'on peut le comprendre. Enfin, qu'on la donne ensuite comme appellation officielle de ce qu'on aurait pu appeler tout simplement voyage de la mémoire, c'est juste insensé. Il y a quand même un petit élément de déconnexion. C'est une mauvaise idée. Et puis, il y a un peu d'inconstance quand même. C'est-à-dire que si le président et son entourage et son gouvernement s'étaient astreints pendant cette semaine à refuser systématiquement de répondre à quelques questions que ce soit qui ne concernent pas le sujet dont on parle aujourd'hui, en disant tout ça est important, mais on le remet à plus tard parce que c'est une semaine importante sur un autre niveau, dans un autre ordre qui nous paraît prioritaire, alors on n'aurait pas eu de polémique. Si vous voulez, on ne peut pas se plaindre de ce que les gens parlent, de ce dont ils ne devraient pas parler si on en parle avec eux. Les mots auditeurs.
Vous ne pouvez pas à la fois aller parler du maréchal Pétain et du prix des carburants.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si on le fait, il ne faut pas s'étonner que les gens ne parlent pas que de la guerre. C'est aussi simple que ça. Alors derrière, dans votre question, il y a évidemment la capacité à penser quelque chose qui est si lointain dans le temps et qui peut sembler si lointain dans l'espace. Je dis qu'il peut sembler si lointain dans l'espace parce que les guerres de Yougoslavie, c'était très près de chez nous. Moi, j'étais la semaine dernière en Israël, dans la pointe extrême nord d'Israël. Vous avez en face le Liban tenu par le Hezbollah. Il n'y a plus de roquettes qui tombent, mais il y en a eu et ça peut recommencer. La guerre n'est pas si lointaine de nos modes de vie, de nos sociétés occidentales, qu'on a parfois l'illusion qu'elle l'est. Mais c'est vrai que c'est devenu très difficile de penser quelque chose d'aussi différent de ce que nous vivons. Le carnage, l'injustice, la destruction générale, la perte d'êtres aimés dans un cadre qui en plus est généralement très contestable. Enfin, d'ailleurs, on y reviendra peut-être. Une des raisons pour lesquelles Pétain était aimé après la Première Guerre mondiale, c'est qu'il avait contribué puissamment à mettre un terme à la boucherie. Donc tout ce qu'ont vécu les poilus et ce qu'ont vécu les Français à cette époque est objectivement très différent de ce que nous vivons aujourd'hui, au point que c'est presque impossible pour les gens de se mettre dans la situation de ce qui a été vécu à l'époque. Donc c'est pour ça, je pense, que le politique, là encore, a une responsabilité, c'est-à-dire qu'il fallait suspendre le temps du trivial si on voulait permettre aux gens de revenir à quelque chose qui est presque inconcevable, mais qu'il faut pourtant concevoir si on veut en avoir et en célébrer la mémoire.
Certes, les Français, Daniel Cohen, ont du mal à imaginer qu'ils puissent se retrouver de nouveau dans les tranchées et dans la peau des poilus. Et en même temps, il y a quand même le paradoxe de cette époque où on entend un président de la République français parler de retour de la lèpre nationaliste, de parler de retour d'un climat des années 30. On peut voir aussi les exercices militaires d'envergure de la Russie. Hein, c'était en septembre dernier avec Vostok 2018, où les exercices militaire de l'OTAN, on n'est pas non plus dans une période qui se caractériserait uniquement par la paix ou par un bruit de paix ou un silence de guerre.
Oui, mais je crois que c'est quand même le cœur de la contradiction de cette séquence qu'on vient de vivre, c'est-à-dire que Emmanuel Macron se dresse dans l'Europe d'aujourd'hui comme celui qui justement veut faire advenir un monde réconcilié, un monde européen, enfin une Europe réconciliée avec elle-même. Et qui s'oppose au populisme naissant, au néo-nationalisme naissant. Et donc cet épisode de commémoration de la Première Guerre mondiale, qui est la source de toutes les barbaries, elle-même a été une boucherie, elle a entraîné ensuite, dans la deuxième partie de cette première moitié du XXe siècle, la barbarie absolue avec la Seconde Guerre mondiale. Donc Macron était celui qui, justement, devait transcender cet épisode pour ouvrir un monde nouveau. Et je crois qu'il s'est pris un peu les pieds dans le tapis en voulant faire à la fois, en même temps, l'éloge des poilus de la France glorieuse et triomphante et en même temps faire advenir le monde d'après. Relativement par rapport à ce qu'avaient réussi à faire Mitterrand et Kohl en 84, on peut dire que c'est raté. Mitterrand et Kohl se tenant la main à Verdun et voulant collectivement tous les deux tourner la page de cette séquence, je pense que ça a marqué les esprits, ça a permis sans doute...
Et pas de la même manière que Macron-Merkel à Compiègne ou à Rotonde.
Mais exactement, ça n'est pas de même nature parce que justement, Macron, bizarrement, s'est laissé tenter par ce que disait François-Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire en faire un grand moment d'unité nationale. Si le grand moment d'unité nationale, c'est le souvenir de la guerre de 14-18, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que c'est justement ces grands moments dont on ne veut plus aujourd'hui. On ne veut plus que l'unité nationale, ce soit la capacité pour la France de se battre contre les Allemands et de gagner la guerre contre l'Allemagne.
Et puis il peut y avoir une unité dans le deuil, tout simplement.
Mais si c'est un deuil, je pense qu'on est, enfin, je dis ça vraiment très, très amicalement et sans aucun esprit de controverse. Mais si c'est un deuil, soit il est collectif, il est partagé avec les autres belligérants parce que cette guerre était une absurdité historique, une absurdité humaine et une absurdité dans la manière dont elle a été gérée ensuite au traité de Versailles. Donc, soit on fait le constat collectif que nous ne voulons plus de ce genre de guerre. Et à ce moment-là, ce doit être un moment européen avec les Allemands, comme l'avait réussi Kohl.
C'est un moment... C'est ce qui a été tenté cette semaine, parce que dès le début de cette semaine, les Allemands étaient présents.
Les Allemands étaient présents.
Et les Britanniques,
oui, mais en même temps, on a voulu faire l'éloge du poilu, on a voulu faire l'éloge du génie national. On a voulu, à un moment donné, ressortir Clémenceau comme notre Churchill qui pourrait faire figure, justement, de grand sauveur et de grand rassembleur. Et je pense que c'est ces messages-là qui se sont télescopés d'une manière contradictoire. Alors, je crois pas qu'on a, je n'ai pas eu l'impression, en tout cas, mais peut-être que je l'ai regardé de manière trop superficielle, que dès le départ, on ait expliqué que c'était le genre de guerre dont on ne voulait plus. Au lieu de dire, c'est le genre de guerre qui montre le génie français et qui, au fond, peut nous inspirer pour la suite.
Voilà, alors, François-Xavier Lamy et Christine Ockrent n'ont pas regardé la semaine de la même manière
que
vous.
Que je l'ai mal vu. C'est vrai que je n'y ai pas vu spécialement d'exaltation du génie français. Que nous disions notre dette à l'égard de ceux qui sont morts pour la France, ça paraît une évidence. Et on serait bien ingrat de ne pas le faire, fût-ce pour dire que nous ne voulons plus vivre de tels sacrifices. Évidemment, je crois qu'on ne peut pas soupçonner Emmanuel Macron d'avoir chanté la beauté de cette guerre en disant qu'elle était le ciment de l'unité nationale. Bien au contraire. La semaine a commencé d'ailleurs à Strasbourg avec M. Steinmeier. Dès le début des commémorations, je crois que le souhait d'associer tous les belligérants était évidemment déjà présent. Et ça se termine aujourd'hui par cette commémoration qui rassemble tous les pays qui ont participé de près ou de loin à la guerre.
L'itinérance, justement, c'était cette manière de revisiter cet héroïsme du combattant. Enfin, je comprends, mais j'ai eu l'impression que, justement, cette controverse sur Pétain aussi faisait partie de cette contradiction de vouloir trouver, et comme il y en a eu, évidemment, des héros français dans ce combat, donc une exaltation de cet héroïsme français, et en même temps, vouloir expliquer que c'est le genre d'héroïsme dont on ne veut plus. C'est-à-dire, on ne veut plus mettre les Français dans une situation de montrer ce genre d'héroïsme. Donc, j'ai eu, moi, depuis le début, cette gêne à vouloir retrouver l'esprit du combattant pour expliquer que c'était ce dont on ne voulait plus. C'est en même temps, j'ai trouvé, n'a pas fonctionné parce que, contrairement encore une fois à Mitterrand et Kohl, mais pardon, hein, François-Xavier, c'est juste pour réagir comme ça, mais contrairement à Mitterrand-Kohl, on a tout de suite fixé les données et on s'y est tenu. Là, j'ai trouvé que c'était plus complexe, plus compliqué.
Est-ce que d'une certaine manière, cette complexité que vous évoquez, Daniel Cohen, et je pose la question à Christine Ockrent et à Philippe Manière, ne renvoie pas à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cette espèce d'ambivalence dans laquelle nous vivons en France, sans savoir si nous sommes en train de préparer la paix ou d'imaginer encore la possibilité d'une guerre, d'être dans le déni de cette possibilité-là?
Moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est que chacun est allé rechercher ses grands-pères. Il y a un phénomène de génération, il y a le glissement mémoriel aussi des générations, je crois. Et je rejoins Daniel Cohen en ce qu'effectivement, c'était beaucoup plus une espèce de marche arrière cette semaine qu'une marche en avant par rapport au constat que dresse, à juste titre, hélas, Emmanuel Macron, s'agissant de l'état de l'Europe aujourd'hui. Même si il y a eu tous les gestes symboliques. En fait, les premières mains serrées, c'était le général de Gaulle et Konrad Adenauer. Donc, en fait, depuis ce moment-là, il y a toujours eu ce souci d'afficher la réconciliation franco-allemande d'abord, mais aussi, et très légitimement, d'associer tous les autres combattants qui ont participé à cette boucherie de 14-18. Mais il est vrai aussi qu'aujourd'hui, la guerre pour nos générations, c'est le terrorisme. Et ça a été formulé comme tel par les responsables politiques. On se souvient d'ailleurs de l'admirable discours de Manuel Valls, Premier ministre, au lendemain des attentats en France.
Qui avait choqué certains en prononçant le mot guerre.
Oui,
comme
mais
le français François Hollande.
Voilà, enfin, Il y a un moment où, effectivement, le confort dans lequel nous sommes, grâce à la construction de l'Europe depuis plus d'un demi-siècle, fait que, effectivement, l'idée de guerre, même si elle était à nos portes à Sarajevo, l'idée de guerre nous paraît extrêmement lointaine, à tel point que nous sommes désormais totalement marginalisés, me semble-t-il, dans les vraies tensions internationales aujourd'hui. J'espère que les débats de ce forum de la paix ne vont pas les masquer, parce que les axes porteurs, qu'est-ce qui se passe? C'est Donald Trump qui sort unilatéralement d'un traité qui nous renvoie à la crise des euromissiles, quand le président Mitterrand avait, à juste titre, autorisé le déploiement de missiles américains sur le sol européen. C'était à la fin de la guerre froide, un traité donc de 1987, Gorbatchev-Reagan. Trump en sort. Pourquoi ? Parce que la menace telle qu'il la perçoit aujourd'hui, c'est la Chine. Et pourquoi est-ce qu'il en sort aussi? C'est parce que la Russie de Vladimir Poutine, qui est signataire à la différence de la Chine de ce traité, ne le respecte pas. Mais nous autres Européens, protégés par l'Alliance Atlantique, on regarde passer, sinon les trains, en tout cas les missiles. Je veux dire, il n'y a pas de pensée stratégique aujourd'hui. Certes, il y a eu ces grandes manœuvres de l'OTAN auxquelles vous faisiez allusion.
L'exercice militaire Trident Juncture.
Voilà, dont on a souligné qu'elle se déroulait dans un climat froid. Ce qui veut bien dire que le théâtre, la menace est comme toujours perçu comme étant venant
avec
de l'Est.
Avec un vieux Tupolev de l'époque soviétique qui aurait d'ailleurs survolé le navire amiral de l'US Navy au large des côtes norvégiennes pendant cet exercice militaire.
Néanmoins, les Finlandais, les Suédois rétablissent le service militaire obligatoire. Il y a les pays baltes, enfin il y a des pays où véritablement la menace russe est perçue comme étant beaucoup plus palpable, évidemment, que la géographie a ses lois et la mémoire historique aussi. Mais pour essayer de répondre à votre question, je crois qu'il est très difficile. Nous nous efforçons de penser la paix comme si elle n'était pas l'inverse de la guerre. Mais pour penser la paix, il faut réfléchir à la guerre aujourd'hui.
Ce qu'a tenté de faire le président Macron, de façon assez inaudible, lorsqu'il a appelé mardi à la création d'une véritable armée européenne. Il parlait d'armée européenne et non plus de défense européenne. Qu'est-ce que vous avez lu dans ce glissement sémantique ?
On revient à cette... à ce chiasme, à cette impossibilité de faire deux choses à la fois, aux limites de l'en-même-tempisme typique de ce président, et ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, je suis complètement confortable avec l'idée de l'exaltation d'un héroïsme national. Les gens qui faisaient la guerre en 1914, qu'ils soient français ou allemands, ils ne le faisaient pas au nom de l'Europe ou au nom de la paix. Ils le faisaient au nom de leur pays respectif. Et donc aujourd'hui, ce pays qui est le même, dans les mêmes frontières, modulo ce qui a été arraché aux Allemands à l'époque précisément, célèbre ses héros et que d'autres pays célèbrent les leurs, ça me paraît naturel, normal, et je ne vois pas bien comment on pourra en faire grief à qui que ce soit. Et je pense même que c'est une sorte de devoir, effectivement, comme le disait tout à l'heure François-Xavier Bellamy. Alors en même temps, justement, Emmanuel Macron veut exalter la paix, exhorter à la paix. Il a bien raison, qui serait contre ? Je suis également pour le beau temps le week-end, contre le cancer et pour la paix.
La hausse des prix de l'essence.
Et contre la hausse des prix de l'essence, naturellement. Mais ça, c'est moins une fatalité que la conséquence d'un vœu. Donc c'est un peu différent. Mais c'est difficile de faire les deux. Et alors, c'est là où on voit la difficulté d'être à la fois président et candidat permanent, ce qui est une fatalité là aussi. C'est-à-dire que le positionnement d'Emmanuel Macron pendant cette séquence, comme on dit, il était bien sûr le positionnement d'un président de la République responsable qui, à juste titre, célèbre les héros tombés pour le pays et qui demande au pays de faire mémoire avec les limites qu'on a dites tout à l'heure. Et en même temps, le positionnement d'une sorte de candidat qui, voyant arriver les élections européennes et les suivantes, sait que sa posture naturelle, son front de commerce, c'est, une espèce de posture... aimons-nous les uns les autres, ne faisons plus la guerre, l'Europe est là pour unir tout le monde toujours plus avant, etc.
C'est pas tout à fait ce qu'il dit.
Non, je parle de la séquence mardi, qui arrive ce dimanche.
Lorsqu'il appelle mardi à la création de véritable armée européenne,
face
à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante, on doit avoir une Europe qui se défend davantage seule, c'est-à-dire sans les États-Unis, sans l'OTAN.
C'est une des rares notes de réalisme que j'ai appréciées dans toute cette enlevée de boutique. Effectivement, la Russie est agressive, la Russie est à nos portes, elle est à peu près aussi agressive qu'avant, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas épiloguer, qui ne sont pas exclusivement de son fait, mais enfin, c'est un fait. En revanche, L'idée selon laquelle on va répondre par une armée européenne est une idée, alors pour le coup, typiquement irénique. C'est-à-dire que les armées européennes, ça fait quand même 25 ans qu'on essaye d'en faire, qu'on en fait à moitié, etc. Pourquoi ça marche pas? Parce que, précisément, l'Europe est composite et que les langues sont différentes, et que, etc. Donc, cette histoire d'armée européenne est charmante. Qui n'y souscrirait, encore une fois? Mais elle n'a pas vraiment d'intérêt opérationnel. Et je pense surtout que cette espèce de tentative de faire une motion de synthèse, comme on disait Ruud Solferino au beau jour du socialisme, entre la mémoire de la guerre et la volonté de faire la paix à l'avenir, est un peu courte. Elle est un peu courte parce que ses promesses sont très très petites et qu'elle consiste à essayer de créer une chimère avec deux belles idées, mais qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera pas.
Oui, enfin, le chantier de l'Europe de la défense n'est pas nouveau.
L'Europe de la défense, ça n'est pas l'armée européenne.
Il patine. C'est autre chose. L'Europe de la défense, il y a déjà des bataillons, si j'ose dire, binationaux. Il y a déjà quelques opérations, notamment au Sahel, où la France, malheureusement, n'a pas pu compter sur beaucoup de ses partenaires européens pour l'aider contre le djihadisme au Sahel. Il y a eu une réunion mercredi dernier d'une dizaine de ministres de la défense européens.
Enfin, en tout cas, 9 pays qui ont signé l'IEI, c'est-à-dire l'Initiative européenne d'intervention.
Plus la Finlande, ce qui est assez nouveau par rapport à la tradition de neutralité finlandaise. Néanmoins, quand on regarde les budgets de la défense, les politiques au pouvoir partout en Europe n'arrivent pas à convaincre ou n'osent pas expliquer à leurs opinions publiques, et cela vaut aussi pour la France, qu'il faut augmenter ces budgets. À partir du moment où on ne les augmente pas et où on s'appuie toujours assez mollement, avec plus ou moins, surtout en France évidemment, par une tradition ancienne d'anti-américanisme, on s'appuie mollement sur l'Alliance Atlantique, sur l'OTAN, et puis on dit « oh là là, mais les Britanniques s'alignent toujours sur les Américains ». On vient de le voir d'ailleurs, s'agissant de cette affaire de retrait de Trump de ce traité contre les missiles balistiques. En même temps, le nombre de fois ce matin où on aura prononcé cette expression,
parce que vous aimez la pensée complexe,
il est un fait que si l'Europe ne prend pas en main sa propre défense, on continuera d'être de plus en plus marginalisé par rapport aux grands axes de confrontation contemporains qui sont encore une fois ce triangle Washington, Moscou, Pékin. Et l'Europe dans tout ça est véritablement de côté.
Pour conclure sur cette première partie, Daniel Cohen, est-ce que vous diriez en effet qu'il y a chez les Français de 2018 une impossibilité ou un refus de penser la guerre ou tout simplement un désintérêt des questions géopolitiques?
Moi, je crois qu'il y a un refus de penser la guerre à l'aune de celle qu'on donne par les hasards du calendrier, en exemple celle de 14-18. Les Français sont parfaitement capables de comprendre qu'il y a besoin d'une France, d'une Europe qui projette ses forces en dehors de ses frontières pour assurer la paix, capable de comprendre la menace chinoise et la menace russe. Ça n'est pas le même type de sentiments qui sont convoqués que ceux qui étaient convoqués en 14-18, dans lequel la France devait récupérer son territoire, l'Alsace et la Lorraine, où l'Allemagne, après l'Angleterre, était présentée comme l'ennemi héréditaire qui nourrissait le nationalisme de l'intérieur par opposition à celui qu'on devait combattre. Ça n'est pas des sentiments de cette nature qui permettent de comprendre aujourd'hui le sentiment national et le sentiment européen. Et on voit toujours la même contradiction apparaître. Il faut accepter que l'Europe, ça n'est pas une France plus grande. L'esprit européen, ça n'est pas l'esprit français plus l'esprit allemand conjugué en un esprit, au fond, de même nature que celui qui habitait les nationalismes au début du XXe siècle, mais quelque chose de tout à fait différent, une construction post-nationale, pacifique, et donc, de ce point de vue-là, ayant les plus grandes difficultés à trouver sa place dans ce terrain des opérations militaires. C'est le cœur de la contradiction européenne. Ça ne veut pas dire que l'Europe doit être naïve, ça ne veut pas dire que l'Europe ne doit pas se doter de forces qui lui permettent d'agir ici et là quand c'est possible, de se doter d'une industrie de défense qui permette à chacune des parties prenantes de bénéficier de tous les avantages technologiques que donnerait cette alliance. Mais ça n'est pas un projet de même nature que le projet national du début du XXe siècle. Il faut accepter qu'on est dans un autre monde. Et je crois que les Français le comprennent très bien. Ils ne sont pas dupes de ce grand récit national qui viendrait tout d'un coup faire oublier qu'ils ont des problèmes de carburant, de misère, etc. C'est quelque chose d'autre, d'une autre nature qu'il faut mobiliser aujourd'hui, je crois, si
pour
on veut rassembler les Français.
Pour conclure, François-Xavier Lamy, sur cette première partie, il y a, vous pensez comme Daniel Cohen, une lucidité des Français sur ces nouveaux enjeux géopolitiques?
Oui, certainement. Je crois que l'opinion est aussi très informée de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui peut-être parfois mal informée, mais en tous les cas, elle ne manque pas de s'inquiéter de la situation du monde. Je crois simplement que ce que dit Daniel Cohen à l'instant est vraiment très important, et au fond, c'est peut-être la difficulté sur laquelle nous butions tout à l'heure. L'Europe, en effet, n'est pas une agrégation de nations, elle se veut universaliste, elle se veut porteuse d'un universalisme qui serait sa définition même. Et c'est ce qui nous rend si difficile la commémoration du sacrifice du poilu, parce que nous ne comprenons même plus d'une certaine manière, aujourd'hui, en tous les cas, nous voudrions ne plus comprendre ce qui a poussé des hommes à mourir, comme le disait Philippe Manière si justement, non pas pour la paix ni pour des valeurs universelles, mais parce qu'ils voulaient reprendre l'Alsace et la Lorraine, parce que ils voulaient que leur pays ne soit pas soumis à l'influence et à la dépendance d'un autre. Et je crois que nous avons aujourd'hui devant nous un très grand défi, parce que l'universalisme abstrait ne suffit pas à constituer les attachements dont nous avons besoin, que simultanément nous ne voulons pas évidemment retrouver ces exaltations absurdes qui ont conduit à ces massacres que le XXe siècle a portés, et que nous avons besoin de trouver un nouveau chemin. On ne s'en sortira pas seulement, je crois, comme le fait le président en répétant que le nationalisme c'est la guerre, on ne s'en sortira pas non plus seulement en tentant d'exalter un récit national auquel il faudrait revenir. Nous avons une nouvelle manière d'attachement à retrouver, et peut-être était-ce l'occasion de le faire à travers cette commémoration. Elle est en partie manquée, mais le travail est toujours devant nous, et c'est ce qui compte le plus au fond.
Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. On va maintenant partir pour les États-Unis. Le premier week-end d'après midterms, après la folie d'une campagne électorale ultra tendue et le constat d'une Amérique durablement coupée en deux.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Dans l'analyse de ce scrutin américain, il y avait d'abord la lecture civique. De ce point de vue-là, il fallait se réjouir que la démocratie restât vivace dans les États-Unis de Donald Trump, avec une participation électorale record, 114 millions de voix exprimées contre 83 millions seulement en 2014. La manifestation sans doute de l'attachement profond des Américains, non seulement à la démocratie représentative, mais aussi et surtout au contre-pouvoir. Il y avait ensuite la lecture politique qui permettait à chacun des deux camps de sauver la face. Devenus maîtres de la Chambre des représentants, les démocrates allaient pouvoir enfin tenter de contrer le trumpisme, notamment par le pouvoir colossal des commissions d'enquête à l'américaine et la possibilité de bloquer l'agenda législatif des républicains. Les républicains qui, eux, consolidaient leur position au Sénat, ce qui permettait à Donald Trump de pouvoir parler d'un immense succès. Il y avait enfin une lecture sociologique qui, elle, n'incitait guère à l'optimisme. Car ces élections entérinaient bien un fossé béant, inquiétant entre deux Amériques. L'Amérique rurale, attachée à ses guns, à sa foi, à ses frontières, mélange hétéroclite de chrétiens conservateurs, d'hommes d'affaires, d'électeurs de la classe moyenne et populaire, Trump reliant désormais les deux ceintures de l'Amérique, la Rust Belt et la Bible Belt, l'Amérique ouvrière et l'Amérique religieuse. Et puis en face, l'autre Amérique. L'Amérique des villes, mais aussi celle des banlieues, qui avait voté massivement démocrate, souvent en faveur de candidats issus de l'immigration. La candidate Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple, née dans le Bronx, à peine 30 ans. D'ailleurs, analysé cette semaine le Wall Street Journal, jamais le gender gap, c'est-à-dire l'écart entre hommes et femmes, n'avait été aussi grand que dans cette élection, une étude indiquant que les femmes diplômées votaient massivement démocrate quand les hommes n'ayant pas fait d'études étaient majoritairement séduits par le trumpisme. Les États-Unis devenaient-ils les États désunis d'Amérique ? Et le président Trump serait-il capable d'adopter, après le ton et le temps de la division, celui de la conciliation à défaut de la réconciliation ?
J'aimerais avoir un ton plus doux. Je crois d'une certaine façon que je n'ai pas le choix. Mais peut-être que j'ai le choix. Et peut-être que j'aurais pu être plus doux de ce point de vue. Mais je veux que des choses soient faites. Nous avons eu d'immenses victoires sur le commerce. D'immenses victoires sur tellement d'aspects. Sur la dimension militaire. Regardez ce que nous avons fait dans la reconstruction de l'armée. Mais je dirais que s'il y avait une chose que je changerais, peut-être que ce serait mon ton. Mais si j'avais eu un ton plus doux, peut-être que j'aurais été broyé par les autres. Parce que je ne peux pas dire que leur ton ait été très doux non plus. Mais ce serait quelque chose sur lequel je pourrais travailler.
Christine O'Krent, il est capable de changer de ton, Donald Trump ?
Mais on l'a vu immédiatement après cette déclaration plutôt lénifiante, quand il a pris à partie lors de la première conférence de presse qui a suivi donc les élections de mardi dernier. Il a pris à partie toujours le même, d'ailleurs, un journaliste de CNN. Il n'a pas aimé sa question. Une assistante de Trump a voulu arracher le micro du journaliste. Trump l'a insulté, le journaliste a insulté aussi l'autre journaliste qui venait en renfort, bref, on connaît désormais le tempérament de Donald Trump, et c'est aussi, au-delà de l'ironie facile, c'est aussi sûrement une dimension qui explique l'ascendant qu'il exerce désormais, non seulement sur l'homme blanc peu éduqué, qui craint à la fois les femmes éduquées, qui craint les minorités de couleur, quelles qu'elles soient, qui craint tout ce qui vient de l'étranger et qui n'a pas de passeport, mais ça explique aussi la façon dont Donald Trump a désormais totalement asservi à sa main le Parti républicain. Et c'est pour ça que moi je serais tentée de privilégier une interprétation politique. Bien sûr, sur le plan culturel, sociologique, l'Amérique est en guerre, une guerre idéologique, encore une fois, dont on mesure mal l'intensité et qui va continuer avec ce que vous avez très bien décrit entre les villes et les milieux ruraux, cette Amérique du milieu que l'on survole, qu'on connaît mal, etc. Mais sur le plan politique, Donald Trump a réussi, et c'est pour lui un gage de succès lors des élections présidentielles de 2020, à dompter complètement le Parti républicain, dont il n'était en rien le candidat naturel. Un New-Yorkais divorcé, qui est pour le protectionnisme, alors que le Parti républicain, historiquement, est pour le libre-échange. Contre l'immigration, alors que historiquement, le Parti républicain a favorisé l'immigration, c'était de la main-d'œuvre bon marché. Enfin, Trump avait, depuis le début, depuis 2016, toutes les caractéristiques qui faisaient qu'une partie des républicains traditionnels, qui se reconnaissaient davantage dans la famille Bush et ses multiples rejetons, ceux qu'on a appelés longtemps les Rockefeller républicains, ceux-là, on ne les entend plus, ils sont matés complètement. Les républicains ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner un siège, que ce soit au Sénat, au poste de gouverneur, dont il ne faut pas oublier l'importance. Les États fédérés ont une grande marge de manœuvre quant aux lois qu'ils adoptent les uns et les autres. Trump, désormais, maîtrise complètement le Parti républicain, et je crois que c'est la donne, véritablement, qui compte, au-delà de tout ce que l'on peut analyser à juste titre, s'agissant, encore une fois, des fissures qui, désormais, s'aggravent encore dans la société américaine.
Et il est vrai, en effet, que cette division profonde de la société américaine, Philippe Manière, elle ne date pas de Trump, elle existait avant Trump, même si Obama et Trump en sont quelque part la matérialisation ou l'incarnation. Vous êtes d'accord avec Christine O'Krane pour dire que le Trumpisme change la philosophie même du Parti des Républicains, et qu'est-ce que ça génère sur l'unité ou la désunion encore plus forte de la société américaine?
Je suis complètement d'accord avec Christine sur le fait que le fait politique majeur, c'est que Trump a amené le Parti républicain à s'aligner sur ses positions, ce qui était loin d'être gagné il y a 2 ans et ce qui était encore douteux il y a seulement quelques mois. Au fur et à mesure, beaucoup de ses opposants putatifs ont lâché l'affaire, ont démissionné, ont décidé de ne pas se représenter, etc. Et là, maintenant, il a quand même amené son parti à la victoire, enfin, en tout cas, à une relative victoire par rapport à ce qu'on pouvait craindre. Et donc, il est légitime aux yeux des républicains, même ceux qui ne l'aiment pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tous ceux qui sont derrière Trump, évidemment, n'aiment pas Trump. Mais enfin, ils sont alignés derrière lui. Donc, c'est une grande victoire à ce titre. Alors, effectivement, ça complique un peu encore le problème américain qui dure depuis un moment et qui n'est pas un problème éternel de l'Amérique. C'est un problème depuis 20 ou 30 ans. Ce qu'ils ont commencé par appeler le dysfunctional Congress, c'est-à-dire un congrès qui ne fonctionnait pas, où on n'arrivait plus à trouver de compromis. L'histoire éternelle de la République américaine, c'est que on se met d'accord dans le cadre de choses qui ne sont pas toujours particulièrement glorieuses. Tu me rachètes la dette et en échange, j'accorde que Washington, la capitale américaine, soit en Virginie. Enfin, toute l'histoire de l'Amérique est fondée sur ces échanges de rhubarbe et de séné qui ne sont pas toujours glorieux, mais qui font avancer la politique, le pays, et qui lui permettent de trouver des solutions. C'est vraiment dans le code génétique du pays, et c'est un facteur de son unité, et c'est un facteur de pérennité de quelque chose qui pourrait être décrit comme une forme de patriotisme constitutionnel. C'est-à-dire que les Américains sont très attachés à leurs institutions parce que les institutions permettent justement de transcender les différences, lesquelles sont de toute éternité considérables aux États-Unis. Donc, l'élection de Trump, qui lui est clivant, qui se veut clivant, qui joue sur le clivage en permanence, n'arrange pas les choses et va plus loin que le dysfunctional Congress. C'est-à-dire que depuis
3 ou 4 ans, cette guerre culturelle qu'évoquait Christine, et qui est la réalité que vivent les élites américaines, qui intéressent moins le reste du pays, mais 10 ou 15 ou 20 ou 30% des Américains vivent très intensément ça dans leur esprit et dans leur chair, pratiquement tous les jours. Ils sont militants comme s'ils devaient demain, comme si leur vie en dépendait pratiquement. Il y avait un papier très intéressant dans le New York Times il y a une dizaine de jours, je crois, sous la plume de David Brooks, qui est l'un des meilleurs éditorialistes, à mon avis, du New York Times, parce que précisément, il est un peu conservateur, donc la combinaison des deux fait que c'est très fécond. Et il travaillait sur un sondage très complet qui vient d'être fait par Pew, si je me rappelle bien, qui avait interrogé les gens sur leur avis dans plein de domaines différents. Et on constatait que 80% des Américains, en réalité, sont à peu près d'accord sur l'essentiel, mais que 10% sont très très à gauche et que 10% sont très très à droite. Et ces 2 fois 10%, c'est-à-dire ces 20%, sont presque tous blancs, CSP+, comme on dirait en France. Donc c'est très curieux ce phénomène, c'est-à-dire que vous avez une espèce de guerre qui fait rage dans les médias, dans les esprits, dans les familles, qui est animée, qui est incarnée par des gens qui en fait sont assez semblables, qui sont des gens dont l'éducation est assez élevée, et qui sont très militants, très convaincus qu'ils doivent aller pratiquement jusqu'au dernier sang au combat idéologique parce que l'avenir de l'Amérique tel qu'il se la représente est en jeu. Ces gens sont assez cousins, ils ont fait des études, ils viennent de milieux favorisés et ils sont presque tous blancs. Et puis vous avez 80% de l'Amérique qui regardent passer les balles, j'allais dire. Alors c'est David Brooks qui est un peu ironique lui aussi, en conclut qu'il y a beaucoup d'espoir parce que 80% des gens sont d'accord. Enfin, on peut aussi dire que malgré l'accord de 80% des gens, vous avez une espèce de guerre permanente qui fait que les États sont effectivement, comme vous le suggériez justement, Émilie, plus désunis que unis. Et ce qui m'a intéressé, je finis là-dessus, c'est l'épisode qu'évoquait Christine tout à l'heure, qui est l'épisode de cette conférence de presse où le journaliste de CNN est pris à partie. La suite de l'épisode mérite encore plus d'attention à mon avis. C'est-à-dire que le lendemain, on a retiré son accréditation à ce journaliste de CNN au motif qu'il aurait touché la jeune stagiaire qui essayait, sur ordre, de lui prendre son micro. Ce que toutes les images le montrent, il n'a pas fait. Oui. Il a dit sorry ma'am. Il a même été très respectueux, poli et respectueux. Je ne dis pas que sa question était intelligente, c'est une autre question, mais en démocratie, on n'a pas à juger de l'opportunité de la présence d'un journaliste à une conférence de presse au motif que la question vous déplaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que Trump a capitalisé pour exclure ce journaliste, d'une manière inacceptable évidemment, sur quelque chose qui est dans la doxa démocrate. Il a dit, sur le MeToo, moi vivant, je ne laisserai pas une femme être touchée par un homme inconvenant à la Maison Blanche.
Surtout que Donald Trump, sur ce plan-là, est
évidemment pas totalement irréprochable. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous reprenez la séquence des 3 dernières années, c'est-à-dire la campagne et les 2 années jusqu'au midterm, vous voyez un président américain qui ne cesse de marquer des points en capitalisant sur les excès et les erreurs des démocrates qui font ce qu'ils peuvent, évidemment, mais qui ne manquent pas une occasion de lui tendre la perche. Et il est extrêmement habile pour utiliser contre eux leurs propres armes.
Alors, c'est la question C'est la question que je voulais poser à Daniel Cohen face à ce Trump, en effet, infiniment tacticien. Ah oui. Quel parti va pouvoir ou devoir jouer le camp démocrate en face? On sait que les contre-pouvoirs américains sont très puissants. On a parlé des commissions d'enquête, on a parlé de la possibilité de perturber l'agenda législatif, d'enquêter sur le passé fiscal de Donald Trump. Quelle carte va devoir jouer habilement le Parti démocrate face à ce Donald Trump-là ?
Se mettre en ordre de marche pour la prochaine présidentielle. Mais d'abord, je voudrais quand même qu'on se mette au point, au clair, entre nous sur le résultat de l'élection de mardi dernier. On en parle comme si c'était une demi-victoire pour Trump. Il a pris une claque considérable, dont l'ampleur est masquée par le système électoral américain, on va en dire un mot, mais qui, au bout du compte, fait que, dans ce qu'on appelle le popular vote, c'est-à-dire la somme de tout ce qui s'est exprimé, l'écart est beaucoup plus important qu'il n'était déjà entre Hillary et lui-même, Clinton et lui-même, puisqu'il y a 8 points d'écart, c'est beaucoup, entre les votes, le nombre de gens qui ont voté démocrate et le nombre de gens qui ont voté républicain. Que deuxièmement, il est maintenant minoritaire dans toutes les catégories sociologiques auxquelles on peut penser, sauf une. Il est minoritaire chez les femmes, il est minoritaire de très très loin chez les jeunes, c'est 2/3, 1/3. Il est minoritaire maintenant dans les classes moyennes aisées, entre 50 000 entre 50 000 $ et 100 000 $. Il est minoritaire aussi maintenant dans ces catégories-là. Il n'est majoritaire que dans une seule catégorie sociologique, l'homme blanc. qui est lui-même largement minoritaire dans l'Amérique d'aujourd'hui. C'est la seule catégorie sociologique où il arrive à 60% des voix. Donc, c'est quelqu'un qui n'incarne plus du tout l'Amérique au sens où il pourrait dire « il y a deux camps, moi et les autres ». Pas du tout. De partout, il est en réalité passé de l'autre côté de l'équation. Ce qui fait que ce décalage considérable entre les voix qui se portent sur lui et les républicains et le résultat électoral n'apparaît pas si tonitruant, c'est que deux choses sont à l'œuvre. D'abord, premièrement, au Sénat, on a cette extraordinaire bizarrerie américaine, mais qui fait partie de son histoire, et c'est vrai qu'il y a une forme de patriotisme derrière ça. Mais cette bizarrerie qui fait qu'au Sénat, les États envoient chacun deux élus, deux sénateurs, quelle que soit la taille de la population. Donc le Wyoming, il y a 600 000 bons hommes dans cet État, ils envoient deux sénateurs, comme la Californie, où il y a 40 millions de personnes qui vivent. C'est presque une petite France, la Californie, et l'autre, c'est, je sais pas quoi, la Corrèze. Donc ils envoient le même nombre de représentants. Or, ces régions à très faible densité de population, où il y a un paysan là tout seul au milieu d'un champ, c'est le cœur de l'électorat républicain et trumpiste en particulier. Donc au Sénat, il y a un biais considérable en faveur des républicains et de Trump en particulier, qui incarne en effet cette figure de l'homme blanc perdu dans des champs trop grands pour lui et qui n'a plus, au fond, de socialité dense et intense avec le reste de la population. Deuxièmement, dans la Chambre des représentants, où il a perdu, il est minoritaire maintenant, il y a ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est-à-dire le découpage électoral, qui est laissé plus ou moins à la discrétion du gouverneur de l'État. Et il y a eu un charcutage incroyable qui s'est produit depuis la dernière élection, qui explique que tout est fait pour favoriser le sortant, le républicain. J'ai lisais dans le Financial Times une étude qui montrait que si ça avait été neutre en termes de rapport population-électorat, ça aurait été ce qu'on appelle un landslide, c'est-à-dire un raz-de-marée démocrate. Donc, ne nous méprenons pas sur le sens de cette élection. Elle n'est pas du tout favorable à Trump,
institutionnellement. Le cadre institutionnel est ce qu'il est, avec toutes les déformations sont exactes. Mais c'est quand même le cadre institutionnel qui gouverne système politique.
Je comprends.
Merci pour cet état des lieux. Ce qui ne répond pas tout à fait à ma question de savoir la partie que va devoir jouer le Parti démocrate. Vous y veniez.
Mais c'est quand même important de savoir que l'Amérique dans son ensemble n'est plus du tout, à l'heure où on parle aujourd'hui, ralliée au message de Trump.
Elle ne l'était même pas au moment de son élection.
Mais
c'est une autre question, pratiquement.
Mais ce n'est pas une autre question. C'est quand même de savoir,
ce qui nous choque, nous.
Est-ce qu'il incarne quelque chose qui est capable de dire, voilà, un état de l'Amérique relativement à une autre, et il y aurait une opposition ville-campagne qui ferait jeu égal, ou est-ce qu'en réalité, il est sur un noyau dur de plus en plus minoritaire, qui ne parvient à survivre que grâce aux bizarreries du corps électoral. C'est quand même important de se le dire. Après, je suis d'accord, le Sénat ne va jamais disparaître, ça fait partie des grandes institutions, il est très favorable aux républicains, comme notre propre Sénat d'ailleurs l'est aux conservateurs.
Est très favorable aux campagnes.
Campagne, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très général, j'ai mes anciens étudiants qui travaillent là-dessus, dans tous les systèmes politiques, en fait, il y a une surreprésentation des campagnes à cause du territoire relativement aux personnes, ça se retrouve partout, c'est universel. Alors maintenant, pour les démocrates, quel est à la fois l'enjeu et le piège? L'enjeu, c'est de mobiliser ça, de constater qu'ils sont majoritaires, très nettement, à part ce noyau de paysans perdus au milieu des campagnes, ils incarnent l'Amérique de demain.
On ne peut pas dire que le vote Trump, ce soit que des paysans perdus au milieu des campagnes.
C'est la seule catégorie où il soit majoritaire.
Dans les villes,
il est très largement
majoritaire. Quand il ne fait que 45% ou 48% dans d'autres populations, on ne peut pas dire qu'il soit marginal. Il ne faut pas non plus croire que Trump est élu par des paysans du Wyoming. C'est faux.
Non, mais d'abord parce qu'il y a dans tout système politique, on vote pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est normal que le l'un ou contre l'autre, mais quand on fait encore une fois la liste de toutes les catégories socioprofessionnelles, le fait qu'il soit dans un rapport 40-60, sauf dans une seule catégorie, ça en dit quand même quelque chose de profond sur sa capacité à incarner l'Amérique de demain, sachant que son noyau dur est celui qui est justement celui en train de disparaître démographiquement. Mais je reviens sur ce point. Maintenant, pour lui, la question est de savoir qu'est-ce que les démocrates vont faire de cette victoire. Je suis désolé d'insister là-dessus, et de cette mobilisation de force anti-Trump.
soin, ils deviennent l'image inversée de Trump. C'est-à-dire Trump, c'est l'homme blanc, et nous, on va être toutes les minorités qui se dressent contre l'homme blanc. À ce moment-là, c'est perdant. C'est perdant parce que effectivement, c'est le terrain où Trump les attend pour dire voilà, moi, je suis le gardien de la tradition. C'est un peu la discussion sur la guerre de 14-18. Et vous êtes en réalité l'éclatement, la dissolution d'Amérique. Soit ils arrivent à incarner eux comme Obama avait réussi à le faire. Non pas la voix d'une agrégation de minorités, mais la vraie Amérique, en quelque sorte. Celle qui est vraie, peut-être, faut pas le dire comme ça, mais en tout cas, une Amérique est capable de se montrer dans un miroir où elle peut constituer une force. Obama avait refusé ce piège, entre guillemets, d'être le candidat d'une minorité. Son premier discours d'investiture était magnifique parce qu'il disait « Je suis l'incarnation de l'idéal de nos pionniers qui ont voulu cette Amérique où n'importe qui, d'où qu'il vienne, puisse devenir président. » Est-ce qu'ils arrivent à retrouver ce discours-là inclusif, ou est-ce qu'en effet, il tourne le miroir d'une autre Amérique que celle de Trump, mais qui lui ressemblera en négatif, et à ce moment-là, effectivement, il redonne une chance au Trumpisme pour se reconstituer contre cette Amérique éclatée.
Oui. Notre désaccord ou notre relative confusion aujourd'hui dans ce studio ramène d'ailleurs à la confusion qu'on pouvait lire aussi dans la presse américaine. Confusion et complexité, difficulté d'analyser ce scrutin des midterms. François-Xavier Bellamy, et tout simplement peut-être difficulté à essayer de définir ce qu'est aujourd'hui l'Amérique, peut-être parce qu'il faut parler de deux Amériques.
Une chose est certaine, c'est que dans cette élection, il y a sans doute deux perdants, en fait. Trump, effectivement, n'a pas gagné ces élections, même si je crois que beaucoup de nos gouvernants ici en Europe seraient heureux d'avoir des scores comme celui-ci à mi-mandat. Il ne faut pas s'exagérer l'ampleur de cette défaite, dans la mesure où l'impopularité fait partie des données structurelles aujourd'hui de toute personne qui gouverne. Donc il y a quand même une résistance du vote Trump, qu'on le veuille ou non. Et quelque chose qui montre en tout cas que son élection n'était pas totalement un accident, qu'il y a quelque chose de structurel dans la vie politique américaine qui est installé aujourd'hui. Mais cette élection, c'est aussi la défaite, malgré tout, du Parti démocrate. Vous parliez de ces biais d'analyse qui sont liés aux institutions américaines, mais en fait, dans la manière même dont vous le décrivez, je vois quelque chose qui correspond aussi aux causes de l'échec du Parti démocrate, qui était déjà le même d'ailleurs à l'époque de l'élection d'Hillary Clinton. Hillary Clinton a profondément méprisé toute une partie de l'électorat. Il y a des États dans lesquels elle n'a même pas été faire campagne. Et le succès de Trump, y compris d'ailleurs dans la primaire républicaine, a été largement dû au fait que lui a été au contact d'une population qui se sent abandonnée. Or, il faut se rendre compte quand même de ce que nous venons de dire ensemble. Le dernier qui vote Trump aujourd'hui, c'est le paysan blanc sous-diplômé. Pour le dire autrement, ce sont les exclus aujourd'hui, ceux qui se sentent exclus, ceux qui se sentent marginalisés par la mondialisation, ceux qui trouvent qu'ils n'ont plus leur place dans la croissance économique, ce sont eux qui votent pour le Parti républicain. Quelle inversion incroyable des choses. Quel signe de faillite pour le Parti démocrate qu'il ne parvient plus à parler à des gens qui aujourd'hui sont précisément socialement en difficulté, qui ont du mal à trouver leur place. Je ne dis pas par là qu'ils soient les seuls électeurs de Trump. Il y a aussi, bien sûr, des gens très riches et très fortunés qui font des grosses affaires, qui votent pour Donald Trump et qui y trouvent leur compte. Mais il y a une difficulté du Parti démocrate à parler à ces classes qui sont aujourd'hui socialement sur la touche. Et ça nous dit quelque chose de notre débat politique européen aussi. Bien sûr que les campagnes sont surreprésentées dans les élections, mais du point de vue médiatique, les villes sont très largement surreprésentées. Le cas de ce journaliste de CNN est très intéressant. Il y a quelques années, Barack Obama avait littéralement fait évacuer un journaliste de la salle de presse parce que sa question lui déplaisait, et tous les autres journalistes avaient applaudi. Aujourd'hui, ce journaliste est interrompu par Trump
parce que c'était
violente.
Sur ses origines étrangères. Ce qui était quand même assez différent. Alors, assez différent, me semble-t-il.
Il n'empêche que malgré tout, l'électeur de Trump ne veut pas y voir autre chose que le signe d'une forme de consensus de la presse qui joue contre son expression. Et Trump fait fond là-dessus, et on peut s'en plaindre, bien sûr. Mais le politiquement correct a atteint, dans le monde démocrate, dans le monde universitaire, dans le monde intellectuel américain, des proportions qui sont suffisantes pour faire exister le phénomène Trump, évidemment, à notre grand désespoir collectif.
Pour conclure sur cette deuxième partie et sur ce vote des midterms, Christine O'Krent, qui aujourd'hui peut rassembler l'Amérique et notamment cette Amérique dont parlait à l'instant François-Xavier Bellamy, est-ce que cela peut encore être un candidat démocrate?
En tout cas, je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse de François-Xavier qui me semble extrêmement française, c'est ce qui est un compliment. Et qui se résume à, en gros, il y a une gauche, c'est le Parti démocrate, et il y a une droite, c'est le Parti républicain. Dans l'histoire politique américaine, c'est beaucoup plus complexe. Mais nous n'avons plus le temps d'en discuter. Mais
nous en reparlerons, rassurez-vous.
Le grand problème du Parti démocrate, c'est qu'il Et c'est pour ça que j'insistais sur la mainmise de Trump sur le Parti républicain, qui était un parti éclaté. Il y avait eu 16 candidats républicains à la primaire pour l'élection de 2016. Le problème du Parti démocrate, c'est qu'il est éclaté entre une frange très à gauche, avec beaucoup de ces jeunes femmes issues des minorités, et notamment celles que vous citiez élues à New York, donc très Sanders, et puis un espèce de bastion du milieu et qui est représenté surtout par les gouverneurs, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que aux États-Unis il y a plusieurs postes électifs qui sont en jeu en même temps. Et le problème du Parti démocrate, c'est que il reste sous la coupe qui est maintenant véritablement rejetée du couple Clinton, aussi bien sur le plan symbolique que sur le plan financier. Obama a fait un retour très intéressant
dans cette campagne.
Dans cette campagne, et cela rejoint tout à fait ce que disait Daniel. Néanmoins, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de figure.
Il y a eu un
intérêt presque excessif pour un jeune candidat du Texas qui s'appelle Beto O'Rourke, qui a été battu finalement par Ted Cruz, qui était d'ailleurs l'adversaire acharné de Trump en 2015. Mais on voit que le problème du Parti démocrate aujourd'hui, c'est que
il n'y a pas encore son corpus idéologique comme le trumpisme,
non,
et donc
surtout,
les républicains ont le leur aujourd'hui.
Mais surtout sa figure, parce que la prochaine élection est présidentielle. Et donc, c'est d'une autre nature que celle à laquelle nous venons d'assister.
Il faut une figure, il faut aussi un corpus idéologique.
Oui. S'agissant de la figure, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Christine. Cela dit, vraiment, aux États-Unis, historiquement, on ne sait jamais 2 ans à l'avance qui sera candidat, ni a fortiori, enfin, qui sera le candidat qui sortira des primaires.
Donc,
le fait qu'il n'y ait pas,
il
y avait toujours une réserve.
Voilà.
On en a un certain nombre qui sont d'ailleurs la promesse d'une défaite pour les démocrates. Elizabeth Warren, enfin, tous ces intellectuels de la côte est qui ont une espèce de réflexe pavlovien anti-Trump et qui sont bien élevés sont absolument, à mon avis, la promesse de la défaite pour les démocrates si jamais ce sont eux qui sont.
Nous reparlerons de cette perspective présidentielle américaine dans d'autres émissions, j'en suis certaine. Merci beaucoup à tous les quatre. On garde quelques secondes pour vos conseils de lecture. Je voulais vous recommander, bien sûr, par rapport à notre première thématique, la lecture d'Henri Rousseau, spécialiste des politiques de mémoire en France, en Europe et dans le monde, et notamment ce livre publié en 2016, Face au passé, essai sur la mémoire contemporaine. Christine Ockrent.
Au moment où le président de la République décide de transporter, si j'ose dire, Maurice Genevoix au Panthéon,
relisons Maurice.
Ceux de 14, ce sont quand même des textes tout à fait admirables qu'on a pu
Et le livre, évidemment, incontournable de la semaine. François-Xavier Bellamy.
Je suis désolé, moi c'est un peu en dehors des thèmes qui étaient choisis, mais je crois que cette question des territoires dont nous avons parlé fait partie aussi des enjeux démocratiques. Il y a le dernier livre de Jean-Christophe Fromentin qui vient de sortir, qui s'appelle « Travailler où nous voulons vivre », qui est une réflexion sur les nouvelles politiques d'urbanisme et qui me paraît être une contribution vraiment très intéressante à des débats qui sont fondamentalement politiques.
Daniel Cohen.
Voilà, donc une réflexion philosophique sur ce qui explique la tolérance vis-à-vis de l'intolérance. Qui se manifeste dans le trumpisme et autres. Un livre de Marc Crépon qui s'appelle « Inhumaines conditions » chez Odile Jacob. Un livre magnifique, très beau à lire.
Philippe Manière.
On a évoqué Genevoix, donc je ne peux pas résister à l'envie de recommander « L'homme dans la guerre, Genevoix face à Junger » qui est un des meilleurs livres du regretté Bernard Marie, c'était chez Grasset. Et s'agissant des débats qu'on a eus aujourd'hui, je recommande un livre de Jean-Claude Azra que je trouve très documenté et très sérieux qui s'appelle « Comment meurent les démocraties ». Ça vient de sortir chez Odile Jacob.
Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Luc-Jean Reynaud qui a réalisé cette émission, à Marine Beccarelli qui l'a comme toujours préparée avec moi, à la technique aujourd'hui, Claude Niort. À suivre, « Les bonnes choses » de Caroline Brouet qui pose la question « Comment mangeait-on en 1918 ?» Et il sera certainement question de Rutabaga. À dimanche prochain.